Ça se passe en août 68.
68, ouais.
Donc, si tu veux, on est un peu comme des militaires qui ont quitté l'Indochine et qui vont partir en Algérie. Tu vois ce que je veux dire? Pendant mai 68, on a eu le Nagra, on a couru dans les rues, on a pris des gaz lacrymogènes. Moi,
En fait,
j'étais à côté de
t'étais
Brincourt.
sur le terrain pour
Ouais, j'étais sur le
RTL.
terrain pour RTL.
T'as couvert quelle manif?
Ben, on était. Écoute, à partir de 6-7 heures du soir, on se plantait quelque part dans Paris
Et on
et ça
attendait que ça se
pétait
passe,
quelque
ouais.
part et on y allait. Ce qui nous permettait déjà d'avoir de l'essence gratuite pour nos voitures, puisqu'il n'y avait pas d'essence. Et Jean-Pierre Lénan, qui était le secrétaire général de Radio,
Lénan.
avait fait un stock dans le garage RTL.
Il y avait
Il
des
avait une
jerrycans?
citerne d'essence
Non.
et il nous remplissait nos. À condition qu'on se serve de nos voitures personnelles pour accompagner les reporters ou pour passer la nuit au quartier
Il vous
latin,
filait de
il nous faisait
l'essence.
le plein. Donc moi, si tu veux, j'étais un peu journaliste, puisque moi, le départ de ma vie, je veux être journaliste. Si je suis au New York Times à New York,
Bah oui.
je suis sorti de Columbia pour être journaliste. Donc moi, je veux être journaliste. C'est après que ça me fait, quand j'entends les Beatles, les Beach Boys et les Radio Pirates, j'ai
Ça donne
envie
envie.
d'être DJ, en fait. J'ai envie d'être DJ. Donc je laisse un peu tomber le journalisme, mais au fond de moi-même, je suis sur l'événement. J'aime bien quand il se passe des trucs, puisque j'étais à New York en 63 quand Kennedy est mort, quand même. J'étais dans la salle de rédaction du New York Times, ce qui est un des plus grands moments de ma vie, quand même. J'ai besoin d'être au cœur de l'événement. Donc on a fait mai 68, on a couru avec le Nagra, on a fait des montages dans les voitures, on a fait une aventure formidable. Puis ça se tasse. Puis d'un seul coup, on m'apprend en plein été 68 que les Soviétiques massent des troupes aux frontières de la Tchécoslovaquie. On connaît la situation, hein, Dubček est dans la merde, moi j'écoute les bulletins, je connais un peu la situation. Et on sait que c'est imminent, les troupes soviétiques vont entrer en Tchécoslovaquie. Et je suis au requin dans le circus. Un soir, on doit être le 17 ou le 18 août, et j'en ai déjà parlé au rédacteur en chef de Radio Luxembourg, enfin de RTL, qui est Dédé Lacaze. André Lacaze, et il me dit, écoute, parce que je lui dis, moi, file-moi un agra, je pars, il faut être sur le coup. Il me dit, non, on a Brincourt, on a des journalistes, t'es pas journaliste, t'as pas de carte. Puis j'insiste, je suis lourd, tu vois, je vais au magasin, je prends un agra de toute façon. Je paye mon billet d'avion, j'irai comme je pourrai, mais j'y vais. Et là, il a le truc du rédacteur en chef, il me dit, tu vas, tu te démerdes, il t'arrive un truc, je te connais pas. Mais si tu reviens, je te prends toutes tes bandes. Tu vois, le truc, démerde-toi. Puis bon, je vais au magasin, je prends un agra, je dis à Dédé, file-moi un bon pour sortir un agra quand même. Alors, il signe le bon. Je mets le agra dans le coffre de ma voiture, le soir, je vais au requin dans le circus. Et il y a Jouffa qui arrive avec Simon Monceau. Et Simon, qui était l'assistant de Decaune. À l'époque, à Radio Luxembourg, qui
Georges,
faisait Georges, ses expériences sur les îles désertes avec son chien et tout ça.
ouais.
Simon me dit, je veux partir en Tchéco. J'ai mais pour qui, comment, pourquoi? Il me dit, écoute, moi j'emmène un appareil photo. Je dis, ben moi j'ai un agra. Il dit, ben on y va. Et on est donc le lendemain, le 19 ou le 20. Donc je dis à Dédé Lacalle, ça y est, je pars, je suis avec Simon de la maison. Il va faire des photos. On va à Orly, on se prend deux billets pour Prague. Et les frontières sont fermées, les aéroports sont fermés. Et le mec d'Air France dit, on peut vous faire un Paris-Vienne en Autriche, mais vous pourrez, on peut pas vous, il n'y a plus d'avion pour Prague. Allez, va pour Vienne. Donc on s'envole pour Vienne dans l'après-midi. Moi j'ai les cheveux ici. Simon m'a dit, t'aurais dû te faire couper les cheveux, on va se faire massacrer dès qu'on va arriver. Lui aussi avait les cheveux longs, mais il avait fait un catogan. Et on arrive à Vienne, et là on tourne un peu, qu'est-ce qu'on fait? On prend une carte, on dit, bah, tout compte fait, on n'est pas très loin de la frontière autrichienne, et on dit, on va prendre un train pour Prague, et on va à la gare de Vienne, et on regarde, et il y avait un dernier train, c'était The Last Train to Prague. Et on n'a même pas le temps de prendre des billets, et on saute dans le train, et on dit, vogue la galère, on verra bien. On arrive à la frontière, il y a des Russes, il y a des chars. Ils sont pas passés encore, ils sont pas rentrés. Il y a des Polonais,
Check.
des Tchèques, hein, des militaires tchèques, etc. Et ça nous rappelle les grands moments quand on a vu les films de guerre en noir et blanc, tu sais. Mesdames et messieurs, nous allons contrôler le train, préparez vos papiers, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et on regarde, tu sais, côté quai, et on voit tous les mecs prêts à monter dans les militaires prêts à monter dans le train pour vérifier. Et côté quai, voit l'autre côté. Et on descend de l'autre côté.
Avec votre matos, c'est
avec
tout.
Avec le drap, et puis ça, pareil, notre baisonville, on a pris une brosse à dents et trois slips. Et on traverse la voie, on va sur l'autre quai. Et là, il y a un mec qui nous met la main comme ça. Et c'est un mec de la SNCF locale, mais tchèque. Ouais. Et Simon parle russe et polonais. Ça n'a rien à voir, mais on se comprend. Ouais. Et il dit au mec, en russe, en polonais... allons dans votre bureau, ne restons pas là. Et le mec comprend. Parce que déjà, il nous a vu sortir de l'autre côté. On va dans son bureau, on lui explique. On est des journalistes français. On connaît la situation. Si vous nous arrêtez, personne ne saura ce qui se passe en Tchécoslovaquie. Nous, on peut faire passer des bandes ou des trucs, des photos. On ne savait pas le mec de quel côté il était. Hein. Il fallait faire un coup de poker. Et le mec... et il nous tamponne deux billets. Et il nous fait remonter dans le train, comme si on montait à la gare, et on donne nos billets, on monte nos passeports, et ça le fait. Ouais. Mais le mec nous avait dit, ça le fait jusqu'à Prague. À Prague, s'il y a des barrages à l'arrivée à la gare. Ça, ouais. Et là, truc à la con, mais tu sais, on a vu des films, on a vu la traversée de Paris. À ce moment-là, Simon, il démonte ce qu'il peut de son appareil photo, c'est-à-dire boîtier, machin. Il se fout tout dans la culotte, le slip, la poche arrière, etc. Et moi, j'achète un sandwich que je mets au-dessus d'une agra comme si c'était une musette de travailleurs, tu sais. C'est con, mais je fais un catogan. Si on avait les cheveux longs, je fais un catogan. J'avais amené une casquette à l'époque, c'était la casquette que portait Jimi Hendrix, les grandes casquettes irlandaises comme ça. Et on fait ouvrier, quoi, toi. Et il y a les Russes qui sont entrés entre-temps dans Prague et qui font le barrage. Et on passe. Et on passe.
Vous n'êtes pas contrôlé.
On n'est pas contrôlé. Sur le parvis de la gare, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un hôtel, il faut se poser quelque part. Il y a des taxis. Et on avait juste, on s'était un tout petit peu rencardé, on se disait le mieux, ou on est planqué, ou on va dans un palace, tu vois, genre on est incognito, puisque les étrangers étaient consignés dans les palaces. Et on va à l'hôtel Yalta, qui est le truc. Sauf que quand on arrive, on s'aperçoit, c'est un petit peu comme De Funès et Bourville, c'est le quartier général des Russes, le Yalta. Et donc on rentre dans la souricière. Mais on ne sait pas, on voit des Russes partout, mais comme il y en a partout, sauf que c'est le quartier général des Russes. On va à la réception, et toujours dans son polonais russe, il demande le directeur de l'hôtel, et il lui explique qu'on est journaliste. Et le mec dit, écoutez, je ne veux pas vos passeports, vous les gardez. Si on lui avait dit, je vous donne une chambre tout en haut, sous les combles.
Mais vous démerdez.
Il y a des portes de sortie par derrière, mais vous démerdez. Vous n'êtes pas dans l'hôtel. Et là, on se dessape, on se fait un brin de toilette et tout. Et là, on va dans la rue. Et là, on voit les chars soviétiques qui rentrent. On fait des photos, on interviewe à gauche, à droite. On cavale, il y a des coups de feu. À un moment donné, on cavale dans une rue derrière la place Venceslas avec la foule parce que les chars arrivaient, tiraient, machin. On se met sous une porte cochère. Il y a trois jeunes gens qui sont là. Et je dis à Simon en français, ça va, machin. Et il y a une des filles qui fait, vous êtes français ? Oui, on est étudiant et on est contre évidemment la révolution, enfin contre les soviétiques. Venez avec nous, suivez-nous. Et on va dans une taverne. Évidemment, Simon ne peut pas s'empêcher de faire du gringue à l'étudiante, laquelle étudiante, visiblement, ça ne lui déplaît pas, mais ce qui nous permet de leur expliquer. Et la fille dit, on a au campus universitaire une radio pirate pour parler avec toute l'Europe. Venez. Et on traverse Prague après le couvre-feu en évitant les patrouilles, vraiment, hein, c'est pas Tintin à Prague, mais presque. Et on arrive à l'université, et Simon en russe, en français, en polonais, explique qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, etc. Moi, pendant ce temps-là, j'enregistre les mecs, les étudiants dans la rue, les coups de feu, les coups de boum-boum, de mitrailleuses et machin. Et avec le directeur de l'hôtel où nous sommes, qui est un peu complice, on va au Telex qui est dans les sous-sols et moi, j'envoie des trucs à Paris. Mais ça dure 2 heures. Après, tout est coupé. Toutes les communications. Dès que les Russes sont installés, toutes les communications sont coupées. Donc, on ne peut plus communiquer du tout. Bon, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de fax. Il n'y a
plus de téléphone non plus.
Il n'y a plus de téléphone. On ne peut plus. Donc, à partir de ce moment-là, Paris ne sait pas ce qu'on devient. Mais moi, j'enregistre comme un malade tout ce qui se passe. À l'université, on retombe sur un fax. Un téléfax, c'est un téléx. Où je dis on est vivant, on est en plein boom, on reste 4 jours, où on travaille nuit et jour. Les étudiants nous emmènent, moi, après toute ma vie, pour développer les photos, pour eux. Ils voulaient garder des photos, enfin, pas des photos, des portraits, tu vois, tout ce qu'on avait photographié, pour eux, pour leurs archives, tu vois. Et ils disent, on a un copain qui a un labo dans un sous-sol, l'autre côté du fleuve. Il peut développer vos photos. Et on sort de l'hôtel après le couvre-feu par derrière et on se fait tirer dessus en traversant le pont. On voit les balles traçantes au-dessus de nos têtes quand même, en entendant halte, halte, halte. Et on court, on voit le mec développe tout bien. Et en rentrant à l'hôtel le lendemain matin, on rentre à l'hôtel, on dormait très peu, hein, parce qu'on était toujours aux aguets, on regardait par la fenêtre vitre couverte et lumière baissée parce qu'il y avait des chars qui manœuvraient en bas. On voulait savoir s'il n'y avait pas de pétards. Et au petit matin, vers 6h30, on avait fait un deal avec le... Puisqu'on était incognito dans l'hôtel, on n'appelait jamais room service, mais à 6h30, on nous a donné un plateau avec du café et 3 conneries à manger. Et là, c'est le directeur de l'hôtel qui vient le porter, en disant qu'il faut que vous partiez. Les Russes savent qu'il y a 2 étrangers dans l'hôtel. Je ne sais pas si vous avez entendu sur la radio, machin, mais il faut partir. Il faut partir. Et là, alors, on avait fait vraiment, c'était Tintin. Tu vois, Simon, il avait décelé un carreau de la salle de bain de la baignoire pour mettre ses pellicules
dedans, ouais.
Dedans, tu sais, puis il rebouchait comme ça. Enfin, vite dans la salle de bain, il récupère ses photos. Moi, j'ai toutes mes bandes, ça commence à faire beaucoup, mais tu vois, dans une musette. Je remets des bandes vierges sur le nagra, on ne sait jamais. Et on sort par derrière. Et on avait emmené des dollars parce que on savait que si on pouvait monnayer quoi que ce soit, ça se ferait en dollars. Et on tombe sur on voit un taxi passer et on fait des grands signes. Le mec s'arrête pas, on lui court après, il s'arrête, il recule et on lui dit, toujours en russo, polono, tchéco, il faut nous sortir de la ville, il faut nous emmener loin, à la campagne, à la frontière si possible. Et le mec fait nia 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 nia, puis il nous montre la photo de sa femme, de ses enfants, c'est dans le taxi, nia 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 nia. Et l'autre, et Simon, il sort 200 dollars, il est déchiré en deux, il les met sur la banquette, il fait l'autre partie quand on est là-bas. Et 200 dollars, c'est énorme à l'époque. L'autre, il regarde les billets, il fait mais non, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait de déchirer de l'argent comme ça. Et il comprend et il nous emmène. Et on sort de la ville, on se cache, on se baisse, tu sais, parce qu'il y a des. On remonte des colonnes de soviétiques, tu sais, on se dit on va se faire choper, quoi. Et on sort de la... et on va, on passe la banlieue et on remonte des colonnes de soviétiques qui ont passé la frontière hongroise ou je ne sais trop, et d'Allemagne de l'Est, et qui vont dans le centre. Et à un moment donné, c'est hallucinant, on voit une espèce de voiture américaine blanche décapotable en cuir rouge ouverte avec 3 mecs et une gonzesse dedans à travers champs qui rejoignent notre route. Mais c'est du Tarantino, quoi. C'est du... et on dit au chauffeur, tu vois, une voiture américaine en tchéco, ça le fait pas, quoi.
Ouais,
on
dit,
rejoignez-les, et non. On les rejoint, ils s'arrêtent, c'est 2 journalistes italiens, enfin 3 journalistes, une fille de la télévision italienne, et deux qui se cassent. Ils sont rentrés par une frontière autrichienne avec leur voiture américaine comme des cons, ils se sont fait repérer, et ils tracent vers la frontière. Donc on file les 2 autres moitiés au chauffeur de taxi, on lui fait bonne chance, on monte dans la voiture américaine, et on est à 30 km de la frontière. Et on arrive. Et là,
bloqué.
Il y a des Russes partout. On voit, il y a des Russes avec des chicanes et des trucs. Et avec Simon, on dit, nous, on va descendre là. Avec nos musettes, on va descendre là. Donc, on quitte le trio italien et on s'avance à pied vers le checkpoint. Et on passe sur le côté où il y avait marqué douane, check, contrôle, machin. On marche sur le trottoir, on s'approche comme ça. Et Simon me dit à un moment donné, cours ! Et on court, comme des malades. Et entre l'instant de surprise des gardes et notre course de cinglés, on arrive dans le no man's land entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Et là, il y a des douaniers, des postes frontières, des gardes frontières autrichiens qui voient qu'il se passe quelque chose, qui viennent vers nous, qui me chopent le nagra, qui nous chopent par la manche et qui nous jettent en Autriche. Et on est rentré.
C'est fou ça.
De là, bon, on explique, on sort les passeports, les machins aux Autrichiens, on leur remercie. On a une voiture, on fait pas du stop, mais il y a une voiture qui repartait vers Vienne, donc on leur demande s'il peut nous emmener. Le mec nous emmène à Vienne. À Vienne, on va à la maison de la presse, un grand centre de presse international, on y va. On prend contact avec Radio Luxembourg, avec RTL, avec tout le monde. On apprend que Brincourt est foudrage. Parce qu'il y est allé, mais il s'est fait confisquer son nagra à la frontière autrichienne par les Russes. Donc il n'est jamais rentré en Tchéco. Donc il nous a accusés d'avoir bidonné tout le temps, même encore. Ouais. Là, je me suis expliqué avec lui il n'y a pas longtemps. De toute façon, c'est un. Bon.
Et vous avez passé les documents.
Et donc, on a tout passé, hein, les photos, les machins. Donc on a dit on est là, on est vivant, on est en bonne santé. On prend un avion, on rentre à Paris. On est rentré à Paris, on a fait le 13h, le 18h pendant 3 jours. Avec les bandes qu'on a montées, etc. Simon, il a vendu ses photos à Paris Match, qui a fait un cahier complet de pages. On voit les Russes, les chars soviétiques, les gens dans la rue, etc. Et voilà.
Bah ouais.
Et on a eu... Jean Farand nous a appelé dans son bureau avec Raymond Castan pour nous féliciter, de nous souligner quand même que c'était un grand boulot de journaliste, mais qu'on n'était pas journaliste. Mais qu'on allait quand même avoir une prime de 500 francs.